Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les semaines. Je suis là pour vous, avec vous, et je suis rejoint par des chroniqueurs d'une qualité incommensurable. Si vous essayez de la commensurer, eh bien vous n'y arriverez pas. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir, comme presque tous les mois, Cédric Ingrand. Comment ça va, Cédric Ingrand ?
Ouais, on est d'accord, il y a mieux, mais c'est plus cher. ça va très très bien, d'autant que je suis en vacances, donc c'est très détendu là.
Ah, je ne savais pas, je me disais, mais il est chez lui, c'est bizarre, en même temps il a déménagé, il est sur Free en 10 gigabits, donc la qualité du son va être elle aussi incommensurable.
C'est là que tu vois que la technologie est beau.
Oula, alors, tu vois, on dit ça et à l'instant, ça a coupé de partout. Donc, ça marchait très, très bien jusqu'à maintenant.
Non, mais c'est-à-dire que soudain, les problèmes de connexion que je peux avoir au bureau, par exemple, n'existent plus chez moi. Alors qu'avant, tu vois, l'état de l'art de la technologie, c'était le B2B, c'était les trucs qu'on vendait aux entreprises. Et puis après, on vendait des trucs un peu dégradés au grand public. Et c'est vrai que c'est de moins en moins le cas.
C'est en plus 10 gigabits free, ça suffirait pour l'intégralité des bureaux de TF1, je suis convaincu. Donc
non, bon,
peut-être pas.
Non.
Peut-être pas. Quand tout le monde se met à regarder YouTube à la pause déjeuner, bien sûr, pas pendant le boulot, ça devient compliqué. Mm-hmm. Tu es en vacances, moi je pars en vacances à la fin de la semaine normalement.
Bravo.
Et merci. Et enfin, je pars, je reste à la maison, mais je vais essayer de ne plus travailler et de pas travailler du tout. Tu vois, ça va être. On va voir comment ça va se passer. Mais ça fait au moins 5 ans, si ce n'est plus, que, comme je le disais dans les épisodes précédents, que je n'ai pas eu de vacances. Donc là, ça va faire bizarre. Et je me demande comment ça va se passer. Et je me demande comment ça va se passer au bout du compte quand je vais revenir. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des émissions de grande qualité également qui seront diffusées pendant les vacances. J'ai préparé des épisodes spéciaux super intéressants. Vous verrez ça. Un petit peu inattendu.
Tu n'as pas juste repris des émissions tellement méritantes qu'elles méritaient d'être écoutées plusieurs fois.
J'aurais pu faire ça, oui, remettre des épisodes, les rediffusions, c'est vrai ? Ah, mais c'est pas bête, en fait. Dans les podcasts, oui, même si les anciens...
Même à la télé, moi j'ai fait pendant 13 ans des rediffusions l'été, tu prends les meilleures émissions de l'année et tu les rediffuses.
Ah, pas bête, écoute, on va...
Quitte à refaire une petite intro en disant, écoutez, celle-là, on a eu tellement peur que vous ayez pu la rater qu'on vous la remet.
Et moi, comme un idiot, je me suis mis à bosser double les semaines d'avant pour préparer des émissions spéciales. Franchement, j'aurais pu recarter.
Qui risquent en plus d'être invalidés par l'actualité d'une manière ou d'une autre, tu vois.
Oh, ça, je crois pas. Je veux pas spoiler, mais j'ai pris des sujets qui sont un petit peu particuliers. Bon, vous verrez
aujourd'hui,
ça.
Qu'est-ce que la blockchain, tu vois, oui.
Ouais, non, on avait fait déjà des épisodes sur ce genre de choses, mais là, c'est complètement... Allez, je vous en spoil un. À quoi servent les bibliothèques ? Par exemple, eh ben, vous allez être surpris, vous allez être très surpris. Les vraies bibliothèques d'aujourd'hui, aujourd'hui que les biens numériques sont disponibles partout et très bon marché, à quoi servent les bibliothèques de l'ancien monde ? Tu sais, celles qui sont
où on met
des arbres morts, tu vois ?
C'est un super débat que j'ai encore eu hier, donc on ne va pas déflorer le débat, mais j'y étais pas. Hein, mais il y a des questions sur, de fait, le fait qu'on numérise tout. Moi, un jour, je suis rentré chez moi et mon épouse avait balancé tous mes DVD. C'était beaucoup, hein, il y en avait pas mal, en me disant, mon chéri, depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais vu regarder un DVD. D'ailleurs, est-ce qu'on a dans la maison quelque chose qui permette de regarder un DVD ?
Exactement, c'est
ouais,
ça.
Ouais, il y a la PlayStation. Oui, c'est mais ça. Elle n'est jamais allumée. Oui, non, mais enfin bon, bref. Et si tu veux, sur les DVD, Bon, je n'étais pas très embêté parce que je ne suis pas un fétichiste de l'objet. Par contre, sur le livre, j'ai un vrai souci.
Mmh. C'est une des nombreuses questions qui se posent, oui.
Chez quelqu'un, tu regardes sa bibliothèque et ça te donne une idée de la personne qui est face à toi.
Oula, viens pas chez moi alors, parce que ça serait inquiétant.
Non, mais beaucoup plus que si tu vois un Kindle posé sur la table, sur la coffee table, tu vois ce que je veux dire. Genre, je peux regarder ce que tu as dans ton Kindle pour comprendre ta personnalité profonde. Et ça, c'est quand même des choses qui manquent, quoi. Et puis bon, moi, je suis né dans une famille où on jette pas les livres, mais ce n'est pas le sujet de l'émission.
Oui, non, on parlera, et vous allez voir que l'émission qu'on va vous diffuser, je pense, la semaine prochaine, sur ce sujet, va vous emmener dans des lieux intellectuels que vous ne soupçonniez pas d'une émission comme celle-là. Donc voilà, ça sera a priori la semaine prochaine. Mais en attendant, aujourd'hui, on a une émission où on va vous parler de lois cyber-haine, de plein de rumeurs et de sujets intéressants qui seront un petit peu plus courts, qui viendront après. Avant ça, évidemment, je prends le temps de remercier Oba, Mathieu Bosque, Nicolas Péritaz, Samuel Ballet, Peu, Dr Cox et Thierry Labire. Qu'ont-ils en commun, tous ces gens de grande qualité? Eh bien, ils ont en commun qu'ils soutiennent le Rendez-vous Tech. Même pendant l'été, il y a des gens qui s'abonnent au Rendez-vous Tech, enfin qui s'abonnent au Patreon du Rendez-vous Tech, qui permet d'une part de soutenir l'émission, ce qui est le plus important bien sûr, mais également d'avoir des petits bonus bien sympathiques, et notamment, si vous souscrivez à ce niveau, d'avoir accès au lieu le plus agréable d'Internet, c'est-à-dire le Slack du Rendez-vous Tech, avec des gens qui parlent de tech, de jeux vidéo, de plein d'autres choses, de culture, de ciné, de tout ça, dans une ambiance détendue, sympathique, agréable, bien plus cool que les réseaux sociaux qu'on connaît et qui sont pleins de propos haineux. Ici, dans le Slack du Rendez-vous Tech, et ben c'est la joie, la bonne humeur, la fraternité, la sororité, le plaisir, voilà. Donc, si vous appréciez l'émission, peut-être que vous devriez réfléchir à vous abonner au Patreon, c'est sur patreon.com/rdvtech. Et donc, je faisais cette transition avec les propos haineux sur les réseaux sociaux. C'est un problème qu'on connaît depuis un certain nombre d'années et auquel des dizaines et des centaines d'organismes et d'États ont essayé de s'attaquer sans vraiment trouver de solution parfaite. Et encore une fois, on a un exemple de solution qui est essayée ou qui est en train d'être débattue, en l'occurrence en France. Et c'est une nouvelle loi sur la cyber-haine et comment la contrer qui fait débat et qui a donné lieu à des réactions assez vives, évidemment, de part et d'autre de la question. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, parce que moi, mon opinion a un petit peu évolué sur la chose ces dernières années, et je voudrais qu'on essaye d'étudier les réactions qu'on a vues. Alors, de quoi s'agit-il, cette loi sur la cyber-haine? C'est une loi qui voudrait qu'on... C'est Madame Laetitia Avia qui porte la loi, la députée qui porte cette loi. Elle est en cours d'examen depuis quelques jours, depuis le 3 juillet. Et en quoi consiste-t-elle? L'élément principal de la loi, c'est d'imposer à différents réseaux sociaux, enfin à différentes plateformes, on n'a pas encore les noms des plateformes ni les conditions dans lesquelles elles devront se trouver pour devoir implémenter ces mesures, mais on imagine bien que ça sera Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tous ces grands réseaux sociaux. Donc ces réseaux devront implémenter un bouton d'alerte contre les contenus haineux, c'est-à-dire que pour tous les contenus, il y aura un bouton qui sera accessible à tous les internautes sur lequel ils pourront cliquer pour signaler le contenu, le signaler comme contenu, enfin ils devront signaler la nature du contenu, est-ce que c'est sexiste, raciste, du harcèlement, etc., etc. Et les plateformes devront supprimer le contenu dans les 24 heures. Alors, on parle ici, et c'est une précision très importante, de contenu manifestement haineux, quand il n'y a pas de questions possibles. Quand vraiment, c'est cette idée que, évidemment, il y a toujours des cas où on peut se poser la question. Je crois que c'est un membre Supreme Court, de la Cour suprême américaine, qui avait dit à propos de contenu pornographique, effectivement, c'était peut-être pornographique, c'était un contenu controversé. Il disait, je ne sais pas où est la ligne exactement entre contenu acceptable et contenu non acceptable, mais ce que je sais, c'est que quand je vois un contenu qui n'est pas acceptable, eh ben je le comprends tout de suite que ce n'est pas acceptable. Donc, définir...
Je crois que c'est un exemple sur la pédopornographie.
Oui, c'est possible.
Où là, le côté manifeste du truc était absolument indiscutable. Après, tu vois, il y a toujours des débats sur qu'est-ce qu'est de l'art et qu'est-ce qu'est de l'érotisme et qu'est-ce qu'est de l'art érotique et qu'est-ce qu'est de la pornographie. La pornographie, on a inventé au moment de l'explosion du cinéma porno des définitions très... enfin, là aussi, assez
très
peu...
Très cru, oui, très... Ouais, très strict, très,
ouais. Ouais, explicite, quoi. C'est, ouais. Voilà, c'est pas
quand
les abeilles.
On voit ça et ça, ouais, c'est ça.
Voilà.
Donc là, ça s'appliquerait au contenu haineux et les plateformes seraient dans l'obligation, donc comme on le disait, de supprimer ce contenu dans les 24 heures, sans quoi elles se verraient faire face à des sanctions assez lourdes. Ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Enfin, c'est des choses évidemment qui font peur. Et ça s'appliquerait à tous les internautes qui sont situés en France. Donc, c'est-à-dire que les plateformes devraient mettre ce bouton à disposition pour les internautes qui vivent en France, qui sont situés en France et métropolitaine, et etc., etc. Donc, ça, c'est en résumé hein, le contenu de la loi. À côté de ça, il y a évidemment des critiques qui ont été exprimées contre la loi. Il y a d'une part... on va dire que c'est l'élément principal, un groupe d'organismes différents qui vont de la quadrature du net au Conseil national du numérique, etc., qui ont adressé au gouvernement et en particulier aux parlementaires qui débattent de la loi, des critiques sur la nature de cette loi. Ces critiques sont celles auxquelles vous penserez sans doute. Il y a des précautions que ces organismes voudraient prendre qui ne sont pas prises dans la rédaction de la loi. Alors, de quoi parle-t-on ? Des choses comme le fait que ces décisions sont prises sans accord de l'organe judiciaire. Il n'y a pas de juge qui est impliqué dans la suppression de ces contenus. Il y a une autre critique qui est les sanctions étant tellement lourde, la crainte est que les plateformes pêchent par excès de prudence et se disent « bon, bah, si on a un doute, on va supprimer ». Et puis après, il y aura débat sur est-ce qu'il fallait supprimer ou pas. Peut-être qu'on peut réimplémenter le contenu en question, mais de crainte qu'on ne soit lourdement sanctionné, eh ben, on va supprimer plutôt que de se poser la question. Autre petit détail, à la place du contenu supprimé, les plateformes devront afficher un petit encart qui explique pourquoi le contenu a été supprimé, peut-être même un petit encart à la limite éducatif sur le sujet. Donc, c'est les critiques qui ont été exprimées à propos de la loi. L'autre élément qui est important à signaler, c'est que si ces choses-là, la suppression dans les 24 heures, les sanctions, etc., vous semblent familières, c'est sans doute parce que bah, ce type de pratique et ce type de demande des gouvernements a déjà été exprimé et que ces plateformes le font déjà plus ou moins. Alors, sans la menace explicite sur le chiffre d'affaires, mais le font quand même déjà plus ou moins, ou en tout cas essayent de le faire plus ou moins dans ces conditions, sans intervention du juge et dans les 24 heures. Et ils se sont engagés auprès de l'Union européenne et ils ont fait des progrès à ce niveau, même si évidemment, il faut pas, on n'est pas à un niveau satisfaisant encore. Ils ont fait des progrès dans cette direction pour supprimer les contenus haineux, les contenus racistes dans les 24 heures, autant que possible. Donc voilà un petit peu le tableau dressé du débat autour de cette loi. Je me retourne vers Cédric du coup. Dans un monde binaire où on est soit pour soit contre, est-ce que on peut tu as une opinion ou est-ce que tu veux exprimer les choses de manière un
non,
peu
mais
plus
on se retrouve
peut-être.
On se retrouve, j'ai envie de dire, comme à chaque fois qu'on essaie de légiférer sur des problèmes qui sont souvent des jugements de valeur, c'est-à-dire que normalement les jugements de valeur en droit en France, on les réserve aux juges. Parce qu'évidemment, il faut peser le pour, le contre. Il y a parfois des cas qui sont borderline. C'est-à-dire que qu'est-ce qui relève. Enfin, tu vois, il y a des choses qui peuvent relever, je sais pas, de l'humour, de la satire, et que certains peuvent trouver terriblement offensif. Mais il y a plein de choses comme ça. Et puis en plus, les parlementaires ont eu tendance quand même au fur et à mesure des débats à étendre le domaine de la lutte à des choses comme la prostitution, il y a des choses sur la pornographie aussi, enfin d'un coup on a un peu compliqué le débat. Mais je comprends les objections du Conseil national du numérique, c'est des gens sérieux, hein, ce sont pas de dangereux anarchistes, mais sur l'absence du juge et sur le fait que évidemment les sanctions sont telles que les plateformes vont pas prendre de risques au nom de la liberté d'expression d'un internaute à la fois. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tout à coup on disait, bah écoute, avoir trop bu, tout à coup ce sera plus juste 3 points sur ton permis, ce sera 5 ans de prison ou 10 ans de prison. Bah la troisième bière, tu vas longtemps hésiter quand même, hein, tu vas peut-être plutôt pêcher du côté de la prudence. Et là aussi, les sanctions sont telles que ce qu'on impose comme temps de réaction aux plateformes font que évidemment la crainte c'est quand même que la balance penche du côté de la censure. Alors de fait, le texte dit, attention, hein, on ne parle là que de choses qui sont manifestement illégales. Eh oui, mais le manifestement, il est dans l'œil de celui qui regarde. Donc c'est... Et tous ces gens, tous ces modérateurs que les plateformes vont embaucher, etc., on va leur demander de privilégier la prudence.
C'est, à vrai dire... je pense que je suis assez d'accord avec toi sur les constats factuels. Effectivement, ils risquent de pécher par excès de prudence. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui critiquent ce type de loi, parce que c'est des lois qui... On n'est pas à la première itération, on va dire, de ce type de demande, comme je le disais tout à l'heure. J'ai envie de leur dire, OK, mais du coup, on fait quoi? Quelle est votre proposition? Et je pense qu'on est vraiment... Mais je pense qu'on est vraiment... Excuse-moi, Cédric.
Contenu, etc.
C'est le cas. Mais du coup, on est déjà dans cette situation. Et on avait déjà eu les critiques sur la sortie du juge de ce circuit. On avait déjà eu cette critique auparavant. Et j'étais, moi, dans le camp des gens qui disaient c'est quand même un problème de livrer le pouvoir judiciaire à ces sociétés. Mais il faut aussi être un petit peu honnête et sortir de l'idéologie dogmatique et essayer de voir dans la pratique, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? On est vraiment dans une situation où le parfait est l'ennemi du pas trop mal, pour étendre une expression commune. On est vraiment dans cette idée où la solution parfaite, à moins qu'on me prouve le contraire, elle n'existe pas. Et je pense que tous ces organismes, peut-être pas tous, mais une bonne partie de ces organismes et de ces organes de presse qui critiquent cette loi sur ces bases qui sont compréhensibles, sont les premières à également se lamenter de l'ambiance délétère qu'on vit sur les réseaux sociaux, justement parce que ces contenus sont tellement foisonnants et qui vont non seulement s'en lamenter d'un point de vue, enfin sur un mode presque philosophique, qui est devenu le monde d'aujourd'hui, mais qui vont pointer du doigt les responsables de ces réseaux sociaux et dire « Que faites-vous, monsieur Zuckerberg? Que faites-vous, monsieur... monsieur YouTube et monsieur Twitter pour supprimer ces contenus? Comment laissez-vous les nazis ? Combien de fois on a entendu Twitter laisse les nazis s'exprimer sur Twitter ? C'est une sorte de quadrature, non pas du net, mais du cercle, où même si c'est parfois des gens différents qui vont leur reprocher des choses différentes, on a quand même, on est en train de les placer dans une position où soit on leur reproche de ne pas supprimer assez, soit quand on leur demande de supprimer, eh ben on va leur reprocher, soit par avance, soit pas par avance, de supprimer trop. Et je suis désolé, à un moment, encore une fois, s'il y a une situation où on ne peut pas trouver une solution parfaite, eh ben il faut choisir le lesser of two evils, quoi, le moins pire. Il faut choisir le moins pire. Et l'élément qui me qui me fait penser que peut-être cette solution, effectivement, quand on demande de supprimer les contenus qui sont manifestement illégaux, si on se dit bah, n'importe qui trouverait ça illégal, oui, il y aura toujours des cas où même dans cette catégorie, on pourrait en discuter, ok. Mais la chose qui me fait penser que peut-être ça pourrait marcher, c'est encore une fois du pragmatisme. Moi, je suis un grand fan du pragmatisme. C'est la loi sur le droit à l'oubli. Les auditeurs qui écoutent cette émission depuis un moment se souviennent que j'avais des oppositions assez véhémentes sur la loi qui régule le droit à l'oubli. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la loi qui impose à Google de rendre inaccessibles certains contenus à la demande des personnes dont parle ce contenu, si c'est du contenu qui est particulièrement ancien et particulièrement négatif, dont ils ne sont plus, qui ne définit plus les personnes qui en parle. Pardon, pas qui en parle, dont on parle. C'est évidemment problématique. On avait des peurs sur ces sujets que, par exemple, des hommes politiques s'en servent pour faire supprimer l'indexation ou l'affichage de ces contenus si c'était des problèmes du type corruption, etc. On avait toutes ces dérives qu'on craignait. Il y avait le problème dans l'inverse qui était, bah oui, mais si c'est pas disponible en France, il suffit d'avoir un VPN et de se situer aux États-Unis pour voir le contenu quand même, etc., etc. Donc, encore une fois, toutes les objections du monde se sont faites entendre, et il a été implémenté il y a quelques années. Moi, à moins que ça soit une grande conspiration et qu'on nous ait tout caché, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de gros scandales avec ce droit à l'oubli, qu'il ait été utilisé à mauvais escient, qu'il ait été mal géré par Google. Bah, ils acceptent, je crois, je sais plus, mais un certain pourcentage des demandes. Certaines, bah, ils les rejettent parce que manifestement pour eux, c'est pas le cas. Une fois que ce entre guillemets jugement de Google a été rendu, et bah, si on n'est pas d'accord, on peut porter l'affaire devant les tribunaux ou demander l'intervention d'une partie extérieure, eh ben, ça semble plus ou moins fonctionner. Là, j'ai l'impression que ça pourrait de la même manière plus ou moins fonctionner et peut-être fonctionner mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on dit il ne faut pas sortir le juge du circuit, c'est bien gentil sur le plan théorique, mais concrètement, ça veut dire quoi? Il faut engager 50 000 juges supplémentaires qui vont passer leur journée à lire les commentaires de tous les, Facebook, de tous les utilisateurs de Facebook du monde, enfin de France, où ils vont publier un truc où ils vont dire ouais, les juifs contrôlent les médias et les noirs c'est tous des singes. Soyons sérieux un instant. Il faut avoir un certain niveau de pragmatisme et voir comment traiter le problème tel qu'il se présente, pas tel qu'on aimerait que la réalité soit. Donc, je ne sais pas si cette solution est la meilleure, je ne sais même pas si elle est vraiment bonne, mais toutes les critiques qu'on... pas toutes les critiques, mais certaines critiques qu'on en fait, moi, me paraissent motivées par une théorie qui est belle, mais qui, à un moment, doit s'adapter à la pratique aussi. Est-ce que je te convainc un petit peu ou t'es toujours...
Oui, oui, mais c'est-à-dire qu'on bute toujours sur des choses qui sont en fait des grands principes, sur le fait que ce sont des choses que normalement on laisse toujours à l'appréciation d'un juge. Alors évidemment...
Non mais bien sûr, tu l'as déjà dit, mais du coup on fait quoi? Oui. On fait quoi?
Oui, mais attention, alors juste une chose, c'est pas une loi qui va combattre le trolling et les fake news, hein.
On parle de haine, oui, tout à fait.
C'est pas quelque chose qui va soudain résoudre tous les problèmes qu'on a sur les réseaux sociaux, mais là uniquement les messages haineux, et c'est vrai que
incitation à la haine raciale. Raciste,
et c'est vrai qu'en plus on s'attaquait sur des choses où on a des critères de jugement qui sont différents. Je m'explique. Aux États-Unis, les néo-nazis, ils ont parfaitement le droit de dire absolument ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Premier amendement de la Constitution, liberté d'expression, etc. Nous, chez nous, on a des choses, tu vois, le négationnisme est un truc qui est puni par la loi, ce qui est un truc qui n'existe pas aux États-Unis. Donc, il y a aussi ce souci-là, c'est-à-dire qu'on s'attaque à... c'est un côté forcément un peu village gaulois. en disant on va régler ça chez nous. Bah oui, mais vous êtes sur un réseau mondial, madame.
Non, non, mais attends, sur ça, on peut faire en sorte que techniquement, le truc ne s'affiche pas en France. Si on a une IP en France, oui, il y aura une histoire de VPN, ok, mais c'est possible. Le fait de ne pas l'afficher,
oui,
d'ailleurs,
sûr.
Twitter le fait déjà. Il y a des trucs qui s'affichent quelque part et pas ailleurs.
Oui, oui, absolument. Un peu frustrant d'ailleurs, parfois il y a des conversations où tu sens bien que tu rates des choses. Mais je comprends l'essentiel des arguments parce que honnêtement, moi ça me rappelle des vieux souvenirs d'il y a 10 ans de Adopi, tu vois, sur là aussi on déléguait, bon c'était pas à une personne privée, mais à une espèce de commission ad hoc, des choses qui, des sanctions qui d'ordinaire revenaient au juge. Donc le truc c'est qu'en fait on ne verra qu'à l'usage comment ça va se passer. On verra qu'à l'usage si vraiment la balance penche très très fortement du côté de la censure de pure précaution. Mais le truc c'est qu'une fois que ce sera fait, ce sera fait. Donc ce sera difficile de déréguler dans l'autre sens.
Je crois qu'on peut, modifier les lois, on peut adapter. C'est bien sûr, on avance dans une direction, ensuite il faut reculer. Mais encore une fois, je te poserai deux questions. Est-ce que tu es d'accord avec mon appréciation de la loi sur le droit à l'oubli, sur laquelle moi j'étais vraiment contre, hein. Je pensais que c'était une erreur, et au final j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal. Et d'autre part, je te renouvelle ma question, si cette loi ne convient pas, qu'est-ce qu'on fait? Et si on dit on fait rien, on reste dans la situation actuelle qui est pas satisfaisante non plus. Donc
on aurait pu être un tout petit peu moins sanguin sur les sanctions, parce que le 4% de ton chiffre d'affaires mondial, c'est quand même un très très gros bâton, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une amende. Enfin, si, c'est une amende, mais c'est pas juste.
Non, c'est sûr que c'est un peu disproportionné, ouais.
Voilà, ça, c'est un côté un peu. Enfin, le, il y a pas de carotte. Par contre, le bâton, il est quand même hyper violent. C'est-à-dire que si tu fais 25 fautes dans l'année, t'as perdu ton chiffre d'affaires. Peut-être qu'on va résoudre le problème du déficit budgétaire de la France. mais bon, ça se fera pas sans douleur.
Oui, c'est jusqu'à 4%. Hein, ils peuvent se limiter.
Bien sûr, oui, tout à fait. Mais bon, ça a un côté quand même. Tu vois, c'est comme si l'essentiel des sanctions des délits routiers pouvaient se terminer par la saisie de ton véhicule. C'est un peu non mais attendez, j'étais en double file, enfin ça va, je veux dire, bon. Sur la finalité, on n'a pas, il y a pas de débat sur la finalité. Oui, il y a des choses qu'il faut absolument arriver à combattre et à combattre avec efficacité. Et jusque là, les plateformes aussi ont souvent des, il y a des choses qu'on comprend pas. Moi, il m'est arrivé de signaler des contenus, des choses qui me concernaient pas moi directement, mais des amis, des messages homophobes, des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand 2, 3, 4 jours plus tard, tu reçois une petite notification de Twitter disant merci pour votre signalement, nous avons de fait jugé que ce contenu contrevenait à nos conditions générales, mais que tu vois que le contenu il est encore là, le compte est encore là, rien n'a bougé. Tu dis ok, on imagine que, je sais pas, ils ont envoyé un message d'avertissement. Enfin, j'en sais rien. C'est-à-dire que tout à coup, il y a aussi une sorte d'opacité sur la façon dont c'est géré. Maintenant, pour que ça marche, il va falloir que les plateformes mettent des moyens en face. C'est-à-dire qu'on sait que Facebook veut embaucher 10 ou 20 000 modérateurs, mais il ne faut jamais oublier que c'est ça. C'est quand même des sociétés de quelques milliers de personnes qui ont quelques milliards d'utilisateurs. Donc forcément, ça va être un peu chaud à gérer. Moi, j'attends les premiers... parce qu'évidemment, il y aura aussi un mécanisme d'appel. Enfin, on pourra, là pour le coup, en appeler à un juge en disant « Non, moi, je trouve que ce que j'ai publié était, je ne sais pas, une tribune politique, machin. On a jugé que c'était de la haine. Je ne suis pas d'accord. »
Ouais,
Le débat ne va pas se clore au jour du vote de la loi.
Bien sûr. Je crois qu'on est, encore une fois, je re-résume ma pensée, c'est le parfait est l'ennemi du pas trop mal, ou du faisons quelque chose. Mais bon, si vous avez une opinion sur la chose, n'hésitez pas à venir nous le dire sur frenchspin.fr. Mais bon, on a suffisamment débattu de la chose, on a trituré le truc dans tous les sens, on verra comment ça se passe à l'avenir. Et encore une fois, moi je suis pas convaincu que ça se passe bien, mais je suis également un petit peu circonspect sur les critiques qu'on fait de cette loi quand les critiques inverses sont également faites de la situation actuelle. Donc si quelqu'un a une solution qui est meilleure, je pense que moi, le gouvernement français et les sociétés qui sont concernées sont toutes oui. Tout le monde écoute. Donc allez-y, n'hésitez pas. On sera heureux d'écouter tout ça. D'ailleurs, peut-être qu'Instagram a une partie de solution qui est intéressante. On en avait parlé à un moment, mais ils sont en train d'implémenter leur système où quand on poste un commentaire qui peut être un petit peu offensant, ils vous mettent un petit panneau pour vous dire « Vous êtes sûr que vous voulez dire ça ?» Ça a l'air d'être quand même un petit peu méchant. Les contenus de ce type-là sont souvent signalés quand ils sont postés. Donc, vous êtes sûr ? Et c'est peut-être pas trop mal, ça va peut-être en faire réfléchir à deux fois certaines personnes qui, de manière un petit peu sanguine, se disent « Ah, machin !» Et puis, bon, finalement, bon, ok, c'est vrai, j'ai peut-être pas besoin de dire ça comme ça, même si, évidemment, ça va pas arrêter tout le monde. Non, t'as pas l'air convaincu non plus. Ok, donc, encore une fois, je te rappelle mon commentaire. Quelle est la solution ? Mais bon.
Ah, mais j'ai pas dit qu'il y avait pas de solution.
Ah, c'est ça le problème.
Le problème, c'est qu'on n'a pas de solution mondiale.
Mais même pas mondiale. Moi, je parle de solution, même au niveau local. Là, on parle de la France. Et bon, bref, repartons pas dans cette question. On pourrait en parler deux heures et peut-être qu'il faudra le faire un jour. Je voudrais... Une autre question dont on pourrait parler deux heures, mais dont je ne vais pas parler deux heures, c'est la question de Patreon. Patreon, vous savez ce que c'est ? Est-ce que tu sais ce que c'est, Cédric ? Mais oui, bien sûr que tu sais ce que c'est.
Je te file 2 dollars par épisode.
Si vous voulez être aussi beau et intelligent que Cédric, il suffit de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. C'est scientifiquement prouvé, ça rend beau et intelligent, et ça permet, si on atteint un certain niveau de soutien qui n'a pas été révélé, de visiblement résoudre les problèmes de Facebook, Twitter et du monde. Donc moi je dis, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas se lancer, surtout si vous appréciez l'émission. Si vous écoutez depuis un petit moment et que vous aimez bien, eh bien je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez en 2 minutes, même sur votre mobile, vous abonner et devenir un fier patriote du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui le font. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des petites récompenses bien sympathiques. Donc allez jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvtech. Cédric, quel est ton produit Apple ou la partie de tes produits Apple le plus détesté de ces dernières années ?
C'est une excellente question. Tu me prends un peu à froid, là.
Ouais, c'est une question. A priori, je pense que tout le monde dirait la même chose, mais...
Ah, le clavier du MacBook.
Ah, bah voilà. OK, très bien.
Non, alors, c'est pas détesté. C'est pas... Je le déteste pas, je le crains. C'est-à-dire que... Non, mais oui. comment dire ? J'aime beaucoup ce clavier. Moi, je trouve, je tape très bien dessus. Il est très pratique. Il a permis d'affiner la machine. Mais de fait, j'ai quand même des touches qui se mettent en rideau de manière assez régulière. Alors jusque-là, c'est bien parce que c'est des touches qui sont en double. Tu vois, c'est une touche commande, le shift à droite, etc. Donc ça va, j'ai encore des backups. Mais c'est-à-dire que si demain, je sais pas, par exemple, la touche T ou la touche 4 ne fonctionne plus, je sais pas trop comment je vais faire.
Ah, mais écoute,
si, clavier Bluetooth, tout ça. Mais enfin, là, tout à coup, tu... Bon, bref.
Oui, sur un MacBook Pro un petit peu pas très bon marché, c'est un petit peu problématique.
Voilà, et là, c'est quand même une machine dont le prix catalogue avec... avec la touch bar et tout ça. Non, c'est avec 1 Tera de SSD. Enfin, c'est une grosse machine, c'est quand même un truc...
Non, mais la touche T, écoute, ça sert pas à grand-chose, franchement.
La touch bar
non, ah, la touch bar, non, moi, je parle de la touche T. Si elle se met en rideau, comme tu disais, ou la touche 4, bon, c'est pas très très grave. Si t'as une touche qui marche plus,
ah bon,
tu peux toujours. Oui, mais oui, c'est pas.
C'est quand on comprend. Une phrase. Je te rappelle que je vide ma plume. Hein,
on comprend quand même. S'il y a une touche, c'est pas grave. Bon, oui, alors.
C'était le fameux papier qui était paru dans le New York Times ou le Washington Post, je sais plus lequel, où ils avaient tapé en retirant, je sais plus quelle lettre. Il y avait plus de E, plus de machin, en disant voilà à quoi ça ressemble sur le clavier de mon MacBook. C'était une efficacité terrible. Comme
c'était un article très bien fait où on avait des boutons pour supprimer les lettres en question de l'article.
Absolument,
c'était
ça.
Très bien fait. Et bien tout
et puis surtout, ça exprime
vient
plein de choses quand même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'attendrait pas de chez Apple, ou si de fait ils ont pris des risques de design, Il y a quand même, c'est-à-dire qu'on sent que depuis le début, Apple pousse ça un peu du bout du pied en disant non, mais c'est pas vraiment, enfin c'est pas un problème et d'ailleurs n'en parlons pas.
Justement,
il y a des choses qui ont changé sur la façon dont ils le corrigent, etc. Mais on sent bien qu'il va falloir à un moment qu'il y ait peut-être un nouveau design qui résolve les problèmes ou en tout cas la fragilité du clavier.
Eh bien, il semblerait, selon l'analyste spécialiste d'Apple Min-Chi Kuo, il semblerait que le nouveau design arrive dès cette année. Enfin, le clavier en question était un design à papillon pour les touches, qui avait une finesse vraiment impressionnante, mais également peu de travel pour les touches, peu de profondeur pour les touches. Donc, certains aimaient moins, certains n'aimaient pas du tout. Moi, ça va. Franchement, moi, ça ne me gêne pas plus que ça, mais je ne tape pas des heures non plus dessus. Mais enfin, après avoir revu le design trois fois, il semblerait, selon Kuo, que cette année, pour les
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
MacBook Air et l'année prochaine pour les MacBook Pro, le clavier soit revu avec un système de switch et non plus de papillon, donc le système d'avant, et ils y reviendraient, donc ils abandonneraient le système de hyper innovant des touches qu'on a vu. Et il y a deux questions que ça pose. Alors, la question que ça pose pas, c'est que effectivement ce problème de clavier a empoisonné Apple ces dernières années et ils vont vouloir évacuer ça enfin, mais il y a deux questions que ça pose. D'une part, est-ce que c'est dû au départ de Johnny Ive, dont on a parlé longuement la semaine dernière, mais est-ce que c'est dû à son départ ? Ça me semble peu probable, mais peut-être. Non. Et l'autre question, c'est est-ce que les touches seront quand même aussi fines, ce qui est difficile avec un système de switch d'avant, mais peut-être. Donc, en gros, la question, c'est est-ce qu'ils vont sacrifier la finesse et le design à l'autel de la fiabilité de leurs appareils et donc avoir des appareils un petit peu plus épais ?
Ça, ah, on imagine la violence du débat interne chez Apple sur ce genre de choses. Mm-hmm. On espère qu'ils vont le faire sans mettre en danger le design du MacBook, parce qu'il est magnifique, ce MacBook.
On espère. Et moi, c'est un... Pardon, vas-y.
Ce que je dis souvent, c'est que, tu vois, j'ai pas de soucis à switcher assez régulièrement d'un iPhone au dernier Android et à revenir à l'iPhone et à passer à un Pixel et à revenir à l'iPhone, etc. Par contre, mon MacBook, c'est un peu comme, comment il s'appelait, un flûte Charlton Heston avec sa carabine, tu vois, c'est... From my cold dead hands. Et pourtant, j'ai essayé d'autres choses, mais là, il n'y a rien à faire, quoi. J'ai du mal à imaginer une vie sans MacBook.
Ouais, c'est vrai qu'au niveau matériel, ils sont quand même... à part ce problème de clavier, clairement.
C'est-à-dire que oui, qui est quand même extrêmement gênant en termes... le design est génial, mais de fait, à part... Apparemment, il suffit de la moindre poussière sous la touche pour que tout à coup, ça ne marche plus. Ça met l'accent sur plein de trucs qui sont très Apple, c'est-à-dire le défaut de réparabilité. Avant, sur un MacBook, tu avais une touche qui ne marchait plus. Bon, déjà, tu pouvais faire sauter le truc pour aller toi nettoyer en dessous, remettre. Bon, ça fonctionnait. Mais en cas de problème, tu pouvais changer une touche. Là, c'est fini. Changer le clavier, c'est compliqué. Dans la pratique, apparemment, c'est...
Même pour eux, dans les Apple Store, c'est compliqué. C'est ça qui est...
C'est ça, il faut voir les vidéos YouTube, c'est absolument délicieux sur comment arriver à récupérer ces trucs. Alors vous le mettez sur la tranche, vous faites pchit pchit dans ce sens-là, puis vous changez de sens. Enfin, ça devient, tu
oui,
vois, c'est
vidéos dont tu parles, même, hein. Les vidéos dont tu parles sont même des vidéos ou des photos, en tout cas, de chez Apple eux-mêmes. C'est genre, si vous avez un problème, vous le mettez sur le côté, vous faites pchit, et puis dans l'autre côté, c'est ridicule. Bref, espérons que les choses changent pour Apple. À vrai dire, c'est le gros problème qu'ils ont, qui les empoisonne depuis quelques temps.
Parce qu'en fait, on n'a pas les chiffres. On ne connaît pas la proportion exacte des possesseurs de MacBook Pro qui ont ce problème. Mais de manière empirique, on a quand même l'impression que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, que ce n'est pas une espèce d'épiphénomène. Ce n'est pas quatre mecs dans leur coin. Ce n'est pas une série affectée. Non, ça a l'air d'être un truc structurel et assez massif.
Ah, ils ont revu le design trois fois déjà, deux fois, donc oui, c'est un problème.
Ils l'ont fait un peu évoluer, ils les ont mieux protégés, ils ont mis des choses en caoutchouc pour éviter que les poussières rentrent. Apparemment, ce n'est pas totalement assez, mais c'est pour ça que quand tu dis qu'il faut que ça change, en fait non, on se retrouve comme des possesseurs d'Apple, c'est-à-dire qu'on a envie que ça change, mais on n'a pas envie que ça change. oui, réparer ce problème, mais ne touchez pas au reste.
C'est ça. Bon, un problème qui est visiblement enfin réparé, même si on n'a pas la date de sortie, c'est le Galaxy Fold, le téléphone pliable de Samsung. C'est le président, je crois, oui, c'est ça, DJ Ko, il a dit la semaine dernière que le problème de la petite du petit film plastique qui provoquait des gros soucis avec le téléphone, même qu'il le rendait inopérationnel, a été corrigé. Ils savent pas encore quand ils vont le sortir, on imagine peut-être la rentrée, mais donc le Galaxy Fold va arriver peut-être. Il semble avoir corrigé le problème, on l'espère, mais c'est la saga qui continue. Peut-être bientôt.
Et là aussi, c'est pas un problème de design, c'est un problème de fragilité. Peut-être que ça leur a permis d'avancer sur deux, trois autres choses. C'est un téléphone séduisant, hein. C'est un truc, ça donne envie. Le travail qui a été fait sur Android autour, etc., est pas mal. Mais c'est vrai que tout à coup, surtout vu le coût, tu hésites à acheter quelque chose dont tout le monde t'a crié sur les toiles jusque là, que c'est hyper fragile.
Ah bah là, c'est sûr qu'ils vont avoir une opération intéressante à faire au niveau communication quand ils vont finalement le ressortir. Ils vont devoir l'envoyer à tous les youtubeurs et journalistes qui ont eu des problèmes avec et leur dire, allez-y, testez-le autant que vous voulez, c'est bon, ça va plus poser de problème, parce que sinon, la question restera jusqu'à la fin des temps sur cet appareil.
Bah surtout, là, il y aura un sticker disant non, ceci n'est pas un film plastique protecteur qu'il faut que vous retiriez.
Ouais. les trottinettes à Paris, on vous en parle depuis quelques mois. Figurez-vous que les choses commencent enfin à se calmer un petit peu, puisque sur les 11 ou 12 services existants de trottinettes électriques en free floating, en partage, il semblerait, selon Numérama, que 7 d'entre eux soient désormais plus ou moins inopérationnels. C'est intéressant parce que Anne Hidalgo avait annoncé qu'elle ferait un appel d'offres avec 2 ou 3 opérateurs sur Paris pour nettoyer un petit peu les choses, que l'appel d'offres arriverait dans les mois à venir. Il semblerait que cette effervescence du début soit en train de se calmer un petit peu, puisque quand on voit les tests qui ont été faits, c'est édifiant. Il y a effectivement 7 de ces services qui n'ont quasiment plus de véhicules, voire plus du tout de véhicules, enfin de trottinettes, disponibles sur Paris. Donc, les choses vont peut-être enfin arriver.
C'est souvent ceux qui étaient déjà les plus petits qui sont partis.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il reste Lime, il reste Bird, il reste après, il y en a, mais qui était un peu plus... qui était un peu en phase de démarrage. Il y en a... J'ai vu dans la liste des gens que je savais pas qui c'était.
Ouais. C'était un petit peu l'Eldorado, ce truc. Enfin. Quoi.
Oui, c'est ça. Ça avait un côté...
il faut absolument faire des trottinettes.
Mais ce qui est
dans la scène, donc forcément ça pose souci.
Ce qui est bien, c'est que quand il y en a moins, il y a moins d'interlocuteurs et on peut s'assurer que c'est des gens plus sérieux avec un appel d'offres de la ville. On va pouvoir, ça va peut-être enfin être un petit peu moins le foutoir et ça donne également, je pense, une sorte de modèle aux autres sociétés, aux autres villes pour voir une fois qu'on aura un petit peu défriché les choses à Paris, aux autres villes pour voir comment gérer les choses. Et d'ailleurs, d'autres villes sont en train de ont déjà pris le même type de mesures. Donc voilà, la saga des trottinettes, c'est pas qu'elle touche à sa fin, mais c'est qu'elle est peut-être en train de rentrer dans le droit chemin, on va dire.
Ouais, c'est un peu curieux. Moi, le plus surprenant, c'est quand même c'était le mois dernier, c'est il n'y a pas six semaines que Usain Bolt était à Paris pour lancer son service de trottinette à lui. Et aujourd'hui, elles ont quasiment disparu. Il en reste cinq. Enfin, tu comprends pas. C'est-à-dire que des gens qui sont en phase de lancement se laissent normalement un peu de temps quand même pour que ça accroche.
Ouais, mais il faut avouer que là, c'était tellement le foutoir. Ça me paraît pas. Ça me paraît pas étrange que certaines se disent « Ok, on est déjà... » Mais c'est un assez bel exemple ou une assez belle illustration de ce qui se passe quand un nouveau marché s'établit. Et c'est le cas dans le cas des systèmes d'exploitation, de tout type de plateforme. Souvent, il y a la place pour, allez, deux ou trois acteurs. C'est la même chose pour les téléphones mobiles, enfin plein de choses. Et c'est pour ça qu'il y a une telle précipitation. Si on réussit à se faire son trou... dans les débuts de ces nouveaux espaces à conquérir, on peut devenir l'un des deux ou trois acteurs majeurs. Mais si on rate le train, eh ben c'est foutu, c'est pas forcément la peine d'insister. Donc, à mon avis, ces sociétés ont voulu se lancer et là, ils se rendent compte que à Paris, ça va être compliqué avec l'appel d'offres, etc. Donc, ils essayent de se concentrer peut-être sur d'autres villes dans lesquelles ils sont présents ou carrément, ils lâchent l'affaire pour les plus petites sociétés. Mais ça illustre parfaitement ce qui se passe dans tous ces marchés nouveaux qui s'ouvrent et où il y a plein d'entrants qui entrent en compétition. C'était la même chose, même dans le cas des téléphones mobiles. Quand Apple est arrivé avec l'iPhone, on a bien sûr Android qui a survécu, mais il y avait Windows Phone, c'était le plus visible. Il y avait des tentatives de Nokia, j'ai oublié les noms. Enfin, il y avait Jola, il y en avait plein d'autres.
Ah oui.
Les téléphones Mozilla, et c'est des trucs où à la fin, il reste un ou deux acteurs et c'est tout. Et c'est pour ça que la ruée vers l'or au début est tellement...
Ouais, mais on sent quand même qu'il y a des gens qui se sont un peu fait plaisir à essayer de faire monter les valorisations de leur petite start-up, etc. Et en déployant, tu vois, genre 10 trottinettes à Paris, ça veut dire quoi, 10 trottinettes ? Enfin, ça n'a pas de sens. Si ça aurait un sens, si justement on était face à... Si par exemple la ville devenait l'opératrice d'une sorte de plateforme unifiée. Un peu comme, je sais pas, moi je suis toujours fasciné par les taxis à Berlin. À Berlin, les taxis, il y a une centrale de taxi, c'est le truc à l'ancienne où tu appelles, mais il y a aussi une app et tout ça, où tous les taxis sont connectés, les indépendants, les sociétés, etc., etc. Et c'est merveilleux parce que tu sais que tu auras toujours le taxi le plus proche, pas juste celui de la société ou du service que tu as appelé. Accessoirement, chez eux, le compteur démarre quand tu poses tes fesses sur la banquette, c'est quand même sympa. et voilà. Dans cette optique-là, parce qu'en plus, c'est ça quand même que la ville a demandé aux opérateurs de plateformes de trottinettes, c'est de leur donner par exemple les localisations pour arriver à voir comment se passe le trafic. Alors, il y en a qui renaclent, parce qu'évidemment, c'est aussi un peu le trésor de guerre, parce qu'elles ne communiquent pas sur le nombre exact de trottinettes. L'organisation de où est-ce qu'elles les déploient, où est-ce qu'elles les replacent, etc., c'est aussi, y a aussi un peu de secret sauce là-dedans. Mais la ville dit oui, non, enfin, vous êtes gentils, mais ça, c'est des infos que nous, en tant que ville, il faut qu'on ait. Et donc tout ça va être centralisé, ce qui est pas mal.
Microsoft a implémenté une nouvelle mise à jour de son application Your Phone de Windows 10 qui permet aux utilisateurs d'Android d'envoyer des messages depuis leur PC. Ça fonctionne de manière assez intéressante. La mise à jour devrait être en train de se terminer maintenant. Vous mettez une app sur votre Android. Il y a aussi l'app pour iPhone, mais forcément, vu que l'iPhone est plus fermé, elle ne fait pas grand-chose. Mais sur Android, ça vous vous indique quand vous avez un message, et si vous recevez un message sur WhatsApp par exemple, eh ben, vous cliquez sur la mise à jour dans Windows 10, ça vous ouvre une fenêtre où ça vous affiche l'écran de votre Android, et vous pouvez du coup rapidement taper une réponse dans l'application WhatsApp sur votre téléphone Android qui s'affiche sur votre téléphone Windows. Donc ça vous fait en fait un moyen de contrôler vos applications Android sur votre appareil Windows dans le cadre des messageries qui est le plus utile, je pense, ou en tout cas l'un des plus utiles. Peut-être que ça pourra être étendu à d'autres choses après. L'application fait aussi des choses pour les photos, etc. Mais je trouve ça assez malin et je suis pour le coup un petit peu déçu que ça ne marche pas avec les iPhones, évidemment, si c'est normal. Mais...
Normal.
Il y a quatre pirates au Parlement européen. Il y a, ce sont des, est-ce que je me trompe, c'est des Tchèques que je dis, oui c'est ça, il y a trois Tchèques et un Allemand je crois, et il y a donc, ils vont faire partie de différents comités. J'ai un petit peu du mal à imaginer ce que ça va dire, ce que ça va influencer d'avoir quatre membres du parti pirate ou des partis pirates au Parlement européen. Évidemment, ce n'est pas grand-chose, mais ils vont siéger dans des commissions. Marcel Collaja est vice-président du Parlement, donc c'est quand même une position importante. Bon, je le signale sans vraiment savoir ce que ça va pouvoir influencer concrètement, mais je ne sais pas, peut-être que toi, Cédric, tu as une idée un peu plus précise.
Non,
que ça va
pas. À 4 eurodéputés du Parti Pirate, ça ne va pas révolutionner le monde de demain, mais par contre, ça va leur donner une voix. Et puis, sur des sujets où ils ont des choses à porter et une expertise plus particulière, ça va peut-être donner des débats intéressants. Et le fait qu'ils arrivent à siéger dans des commissions, là aussi, peut faire évoluer des choses. On rappelle, hein, les grands combats du Parti Pirate, c'est tout ce qui tient à l'extension du copyright. Il y a plein de choses. Maintenant, c'est amusant parce que dans l'ensemble, c'est des gens assez propres sur eux, tu vois ce que je veux dire, c'est pas l'idée que tu as d'un eurodéputé pirate. C'est un peu ce que serait chez nous la quadrature du net si ça devenait un parti politique. Donc non, moi je trouve ça intéressant.
Un autre truc intéressant, c'est un papier du MIT Technology Review qui fait généralement des articles sur de la recherche pas fondamentale forcément, mais quelque chose d'un petit peu de pointe, on va dire, sur le fait que la technologie, il tire pas la sirène d'alarme, si la sonnette d'alarme, on va dire d'une certaine manière, pour dire que bientôt, c'est pas encore le cas, mais bientôt, la technologie des appareils de surveillance des caméras et des appareils photo dans les satellites sera tellement poussée et tellement accessible, en particulier avec des satellites orbite basse qui sont lancés très souvent. Alors certains n'ont pas de caméra, mais la plupart peut-être n'ont pas de caméra, mais certains pourraient en avoir. Donc ça sera tellement poussé qu'ils disent... on n'est pas loin du moment où on va pouvoir observer l'ensemble du monde en temps réel, 24 heures sur 24, grâce aux caméras des satellites.
Bah oui, parce qu'on a quand même des technologies qui permettent maintenant de lancer des réseaux de micro-satellites d'imagerie, parce que c'est ça dont on parle. Alors ça a plein d'usages, hein, mais avec une promesse qui est par exemple, tu vas lancer, 150, 200, 500 satellites qui vont permettre de faire comme un scan des parties habitées de la planète une fois par jour, par exemple. Ça a plein d'intérêt parce que tout à coup, ça rajoute une couche temporelle à ta cartographie. Tu peux voir comment les choses évoluent dans le temps de manière extrêmement précise. Mais c'est vrai que ça, couplé à l'amélioration des capteurs, où jusque-là, on était sur des précisions à 25 cm. En gros, un pixel sur la photo, c'était 25 cm dans le monde réel. Si tu resserres ça... tu vas à un moment arriver au moment où tu vas arriver, je sais pas, à lire une plaque minéralogique sur une voiture. Et on n'y est pas encore. Mais
non, mais c'est
tout à coup, tu te retrouves face au même souci que la vidéosurveillance normale.
C'est ça.
celle qui est terriblement terre à terre, mais avec des satellites qui eux sont en l'air, tu sais pas qui, tu sais pas quoi, enfin c'est voilà, t'es pas t'as pas les garde-fous habituels, donc c'est à la fois génial, fascinant, ça fait un peu peur, enfin c'est business as usual dans le numérique, j'ai envie de dire.
Un petit peu, ouais.
Non, mais c'est génial. Ah oui, mais attends Rémi, imagine si c'est utilisé comme ça. Ah ouais, t'as raison, ça fait un peu peur. Ouais, mais quand même c'est génial. Bon, c'est bon, sujet suivant.
Ce dont ils parlent, juste pour être précis, ils disent que bientôt, on n'y est pas encore, mais bientôt, on pourra avoir une surveillance en temps réel. Hein. Ils parlent bien de surveillance 24 heures sur 24 en temps réel.
Modèle of the state, tu vois, où on te suit.
C'est ça.
Je pense pas qu'on y soit encore, parce que le problème, c'est que les satellites bougent. Ou alors, ils sont géostationnaires et vraiment, ils sont beaucoup trop loin pour l'instant pour arriver à faire de l'imagerie très fine.
Non, mais si t'en as 3000 comme ceux que veut lancer Amazon dans les années à venir, tu peux peut-être.
C'est-à-dire que tout à coup, c'est vrai, si ton réseau de satellites, au lieu de scanner la Terre une fois par jour, elle le fait, je sais pas, 8 fois par jour, tout à coup, oui, on va voir à quelle heure tu es parti de chez toi. Ta voiture n'est plus là.
Non, mais encore une fois, 8 fois par jour, c'est un truc dont on n'est pas loin aujourd'hui. Eux, ce dont ils parlent, ils disent. Attention,
oui,
parce que bientôt, genre vous êtes dans votre petite dans votre petit bureau à la NSA, vous tapez accès satellite machin, je veux voir tel endroit et vous voyez en temps réel depuis l'espace. Alors bon, peut-être que c'est un petit peu alarmiste, mais le MIT c'est quand même une université assez sérieuse et le MIT Technology Review ils sont très sérieux, donc. Bon, bref.
Non, moi j'y crois, j'ai lu le papier, il est passionnant. Je vous en recommande la lecture. Et on ouvre un territoire des possibles qui est absolument fascinant et qui va permettre plein de choses, mais même pour des trucs très pragmatiques, hein, tu vois, dans l'humanitaire, pour l'agriculture. Ça va aussi passionner tous les gens qui font, tous les analystes en matières premières. Enfin bon, ça a mille usages. Les prix se sont effondrés. C'est-à-dire que ça coûte plus 50 millions ou 500 millions d'envoyer un satellite. Maintenant, ça coûte 1 million, peut-être. Et ça tombe bien parce que le produire aussi a énormément baissé. C'est-à-dire que tu vas faire des satellites avec des Raspberry Pi, tu vois, à l'intérieur. Mais oui, c'est vrai que tout à coup, ça pose de nouvelles questions qui ne se posaient pas jusque-là. Et des questions que jusque-là, on réservait, tu vois, à c'est quoi l'état de l'art des satellites de reconnaissance de la NSA ? Ça, on n'a pas la réponse. Hein. On imagine qu'ils sont vachement, vachement bien. Mais tout à coup, ces technologies-là vont arriver sur des plateformes civiles. Et c'est vrai qu'il va falloir se reposer la question des usages. T'imagines qu'aujourd'hui, tu vas sur Google Maps, il y a des endroits qui sont floutés. Oui, mais si tout le monde peut être opérateur de son petit satellite, enfin, quand je dis tout le monde...
Cédric, c'est une bonne idée.
Toute entreprise pourra le faire. Les questions de confidentialité vont se poser aussi.
Moi, je trouve que c'est une bonne idée. 1 million, ça fait un petit peu cher pour moi, mais je pense que si on s'y met à deux... toi et moi, on pourrait peut-être lancer un satellite d'observation. Bon, ensuite, on verra ce qu'on observe. Ça te dit, on fait un satellite
nickel.
Patrick Cédric, voit avec
SpaceX. On lance le Patreon dès demain.
Ça marche.
Voilà.
Très bien.
Oui, ou l'Indiegogo.
Et après, on pourra revendre du temps d'observation satellite aux personnes qui ont backé, tout ça. Super, ouais. Bon, ça paraît bien.
On va lui donner un nom, il s'appellera le Because Why Not.
Exactement. C'est un petit peu le leitmotiv de la tech ces dernières années. Et toujours, oui. Parlons un petit peu de Chine, tiens. Selon différentes sources, il y a de nombreux constructeurs qui commencent à exporter leur fabrication de matériel hors de Chine. Alors, on parle de HP et Dell, mais aussi de Google, Amazon, Sony, Nintendo. Microsoft a démenti. Ils ont dit non, pas du tout. Alors, peut-être que certains d'entre eux ne sont pas effectivement en train de le faire. Mais bon, on peut imaginer que c'est une conséquence des problèmes qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Et à côté de ça, puisqu'on parle de Chine, je voulais aussi mentionner cette histoire intéressante des touristes qui arrivent en Chine dans la province du Xinjiang. Je sais, évidemment,
Xinjiang.
Je prononce pas bien. Xinjiang. C'est la province, si je ne m'abuse, où vivent les Ouïghours.
Les Ouïghours.
Qui sont persécutés, une minorité musulmane de Chine. En fait, quand vous arrivez, si vous êtes un touriste, si vous avez un appareil Android, ils vous demandent gentiment d'installer un spyware sur votre appareil. Et si vous avez un appareil Apple, un iPhone, ils le connectent à une petite boîte par USB et on imagine qu'ils aspirent toutes les les données possibles qu'ils peuvent. Mais pour Android, bah, vous gardez le spyware dessus et il continue à faire ce qu'il fait. Ça télécharge tous les textes, ça regarde tous les textes, tous les calendriers, les appels téléphoniques, etc.
Ça permet surtout de vous tracer après.
Dans le cas des téléphones Android, oui.
Dans le cas de l'essentiel, parce que tout à coup, on a ton UMSI, on relie le téléphone à ton identité, à ton passeport, en gros.
Oui, ça s'applique aussi aux iPhones, bien sûr. Ouais.
Mais c'est vrai que le degré de surveillance là-bas est assez... Enfin, c'est terrifiant, quand même. Hein. J'ai encore entendu hier l'histoire d'un étudiant chinois qui vit aux États-Unis, qui est rentré dans sa famille en été. Il a connu un été pas inintéressant. On lui a tout pris, hein, son empreinte génétique. Il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il allait dans un bâtiment public et qu'on scannait son identité d'une manière ou d'une autre, il y avait une alerte, comme si c'était un individu dangereux. Et on lui disait, le mieux, ce serait que vous restiez chez vous, en fait. Hein.
C'est marrant, il y a des gens, à chaque fois que je parle des histoires de Chine, peut-être pas pour celle-là quand même, parce qu'elle est un peu corsée, il y a des gens qui me disent « Ah, mais oui, mais c'est pas si gênant, si on n'a rien à se reprocher, machin. » J'exagère, c'est pas à chaque fois, plusieurs commentaires de gens qui me disent « Ah oui, mais le score de credit rating, machin, c'est pas si gênant. » Je suis assez surpris, je l'ai déjà exprimé dans l'émission, mais assez surpris de ces réactions du fait que, clairement, certaines personnes ne comprennent pas les implications dans l'état omniprésent de ce type de mesure. Et je ne sais pas, ça me...
Oui, c'est
me
vrai que je suis d'accord. Hein, le côté, si tu n'as rien à te reprocher ou à le souci, ça, c'est pas...
Surtout quand on parle de trucs comme le crédit social ou en fonction de ce que tu fais dans la vie, dans ton quotidien, on t'attribue un score de bonne citoyenneté qui va ensuite te permettre de faire des choses dans le pays.
J'ai ces débats-là à la maison avec mon épouse qui va pas mal en Chine en ce moment et qui dit « Mais oui, mais quand même... tout est tellement efficace là-bas. » Ah oui, ça c'est sûr.
Les trains étaient à l'heure en Italie sous Mussolini.
Non mais c'est vrai, la démocratie est un truc terriblement inefficace. On est d'accord sur ce constat.
Oui,
un temps fou,
c'est sûr.
Sur des trucs à décider, pas décider. Là, oui, je suis d'accord que par certains côtés, la Chine a des aspects extrêmement efficaces et ils l'ont montré, hein, ils l'ont prouvé. Il y a des trucs sur. Mais c'est vrai que et à un moment, c'est quand même aussi assez fascinant de regarder un pays qui n'a aucun complexe à pousser la technologie dans ses derniers retranchements, parfois de fait pour des trucs purement civiques. Moi, je me souviens il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, avant les JO de Pékin, où à Pékin justement il y avait des gens qui allaient en gros prêcher la bonne parole et faire des campagnes d'éducation sociale pour expliquer aux gens que, un, il fallait pas cracher dans la rue parce que ça faisait peur aux touristes, qu'ils allaient voir les vendeurs à la sauvette et ils leur expliquaient le concept même de la propriété intellectuelle en disant non, tu vois ça, les logos olympiques, les porte-clés, c'est pas les porte-clés officiels, donc tu peux pas les vendre. Et les gens, il y en avait des gens qui ne comprenaient pas en disant mais je comprends pas, je les ai achetés légalement dans une imprimerie. Oui, mais non, on ne se comprend pas. Donc, il y a des choses que je peux comprendre. Le côté, tu vois, tu à Shanghai, tu traverses en dehors des clous, la caméra t'a chopé, elle met ta tête sur un grand écran et elle donne ton nom si elle t'a reconnu, en disant « c'est pas bien ». Bon, ça, c'est pas mal. Ça, à la limite, j'aimerais... Tu sais, c'est un peu comme sur les autoroutes avec les trucs qui disent « Attention, la plaque HV512PR, vous roulez trop vite. » ça, c'est ce qu'on fait, nous. Eux, ils font directement « Patrick Béja, attention, il faut traverser au rouge. »
À la limite, traverser au rouge, OK, peut-être on pourrait en discuter. Moi, ce qui me gênerait encore plus... Ou ce qui me gênerait vraiment, c'est si ça garde quelques barres dans une base de données. Patrick Béja a traversé 3 fois au rouge et donc il a un score de crédit social déduit de 10 points et donc il ne peut pas prendre le train aujourd'hui.
Mais là aussi, c'est juste, tu vois, c'est juste aller au cran du dessus.
Ouais,
parce qu'une fois que tu l'as fait, une fois que tu l'as détecté, le stocker est quelque chose de trivial. Et puis, tu as des identifiants uniques, un peu comme le numéro de sécu chez nous. Donc, finalement, pourquoi tu ne stocks pas ça? Peut-être que c'est intéressant. Peut-être qu'on va s'apercevoir que tu le fais tous les jours.
Oui,
c'est
sûr.
Il va falloir te sanctionner.
Mais c'est pour ça qu'on a la CNIL et qu'on a des lois. Parce que ça, c'est des choses qui sont déjà possibles aujourd'hui. Ce n'est pas des avancées technologiques folles. Il y a des choses qui seraient déjà possibles. Mais c'est pour ça, justement qu'on a des lois et des organismes qui régulent ces choses-là et qui s'assurent qu'on ne fait pas n'importe n'importe quoi avec les outils qu'on a, autant que possible. Donc,
c'est ça. Nous, on a fait RGPD, ça a pris un temps fou, on verra, peut-être que ce n'est pas parfaitement efficace. Ouais. Et c'est vrai que chez eux, RGPD, ça aurait pris 2 semaines.
C'est sûr, c'est vrai. Donc,
j'ai aucune objection sur l'efficacité. Après, c'est vrai que sur la façon de faire et les buts recherchés, bon. Mais il ne faut jamais oublier que tu es quand même dans un pays de plus d'un milliard d'âmes avec je ne sais plus combien, 8 ou 10 ethnies différentes. Je pense, avec l'âge, je commence à me poser la question de savoir, et c'est très sérieux, hein, si la démocratie est un principe applicable à tous et partout. Bah, j'aimerais bien que ça le soit.
Ce qui est sûr, c'est qu'en Chine, effectivement... Il y a de quoi se poser la question, en tout cas. Moi aussi, j'aimerais bien que ça le soit, mais c'est vrai que dans certains pays et dans certaines cultures où le collectif est plus important que l'individuel, la question se pose de manière très sérieuse, quoi. Et il se pose... Alors, est-ce que c'est un manque d'habitude, un manque d'éducation, éducation au sens... ils n'ont pas l'habitude, ils ne connaissent pas, donc c'est difficile de juger. Bon, là, on part sur des questions qui sont plus vraiment...
Je disais l'analyse d'un sinologue renommé, mais dont le nom m'échappe à cet instant précis, qui disait, la grande crainte, en fait, des Chinois, et elle n'est pas nouvelle, hein, c'est la balkanisation. C'est que tout à coup, les ennemis deviennent... Pardon ?
Ils vont aller vivre à Levallois ?
Non, pas ce Balkany-là.
Ah, d'accord, ok.
C'est excellent, je l'en sortirai.
Merci.
C'est-à-dire que tout à coup, c'est-à-dire que les ethnies, les trois ethnies altaïques du Xinjiang disent non, mais on va faire notre propre territoire en autonomie. En gros, il reste les Han. Que tous les autres, chacun de leur côté, disent non, mais attendez, c'est bon, moi finalement je suis plutôt d'extraction coréenne, donc je vais faire ma zone autonome, enfin tu vois ce que je veux dire, et ça pour eux c'est évidemment impensable, et je sais pas ce qui se passerait si on était dans une démocratie pure et parfaite. Donc moi je suis toujours d'accord avec Churchill, c'est la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres.
Eh bien écoute, c'est sur cette citation que... Je vais quand même mentionner cette dernière news de recherche pour le coup fondamentale. Dans le New Scientist, il y a un papier sur des chercheurs qui ont réussi à stocker une image, un thumbnail, donc un tout petit, sur des molécules plus petites qu'une molécule d'ADN. Et qui ont réussi à récupérer avec 99% de justesse ces informations. Alors 99% quand tu veux faire de l'informatique, c'est pas assez. Oui, de fiabilité, non, pardon. C'est vraiment pas assez.
Si tu regardes Netflix et qu'il y a 1% de paquets défectueux, ça va être très très long pour voir la nouvelle saison de Stranger Things.
Mais donc on arrive à un état, bon là c'est encore une fois de la recherche pour le coup fondamentale, enfin pas fondamentale, mais de l'application très extrême.
Un tout début de recherche appliquée, oui. Mais ça fait longtemps qu'on nous dit qu'on va stocker des données sur le principe des strands, des fils d'ADN, quoi. Et pour arriver à stocker beaucoup plus, en fait c'est une question de densité de stockage. C'est passionnant.
Donc on y arrive dans quelques années, on aura peut-être tout ça, peut-être pas dans nos ordinateurs, ça servira peut-être au stockage long terme, ce genre de choses. Mais... Parce que d'ailleurs, c'est un autre sujet qui serait intéressant, comment stocker des choses pour les garder sur des centaines ou des milliers d'années, sachant que nos CD et nos DVD des années 80-90 commencent déjà à être illisibles, pas parce qu'on n'a plus de CD et de lecteurs de DVD, ce qui est un autre problème, mais parce que physiquement, ils se dégradent. Jusqu'à maintenant, on stockait, je crois, sur des disques en métal, peut-être en or, je ne sais plus. Peut-être pas en or, ça m'a l'air fragile, mais des disques en métal, ça pouvait être une solution pour ça. Mais bon, en même temps, les molécules, je suis pas sûr que ça soit utilisable sur le très long terme aussi. Elles se dégradent peut-être avec les rayonnements stellaires qui traversent la planète. Je sais pas. Bref, dans tous les cas, on peut maintenant faire ce genre de choses, envisager ce genre de choses. Et c'est surprenant et assez excitant.
Ça, ce serait un bon sujet de hors-série du Rendez-vous Tech à passer pendant les vacances. Aller voir des spécialistes de l'archivage long terme et leur faire expliquer la difficulté de leur métier, justement sur le choix du média, qu'est-ce qu'on arrivera encore, combien de temps ça dure, est-ce qu'on aura encore les machines pour le lire, etc. C'est un vrai problème passionnant et qui touche plein de gens. Hein. Tu peux aller à l'INA, il y a plein de gens qui, justement, eux, veulent arriver à figer des données sur un support pour l'éternité ou presque, ou pour quelque chose tendant vers l'éternité. Et c'est pas... C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on a simplifié le stockage, densifié le stockage et où les prix se sont effondrés, y a des problèmes qu'on n'a pas encore vraiment réussi à résoudre.
Bon, peut-être pour l'année prochaine, on y pensera. Voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Comme je le disais, à partir de la semaine prochaine, ça sera pas moi. Enfin, si, ça sera moi, mais moi du passé qui sera là dans le futur, avec un épisode spécial. Et puis, il y aura des invités qui vont animer l'émission et puis d'autres épisodes spéciaux. Et je reviendrai en août pour reprendre le contrôle de l'émission qui, j'espère, je suis sûr, aura continué dans sa voix de manière absolument inattaquable. Et d'ici là, peut-être que vous pourrez aller également suivre Cédric et moi sur les réseaux sociaux. Cédric, si les gens veulent te suivre, où est-ce que tu es ?
À Cédric sur Twitter. Là, je suis en vacances, donc si vous voulez me revoir sur LCI, il va falloir attendre le 27 juillet, je crois. Et mon compte Twitter est assez calme en ce moment parce que j'ai déménagé, je suis en plein travaux, donc j'ai un peu la tête ailleurs, mais ça m'empêche pas de retweeter les choses intelligentes qu'écrivent les autres.
Super. Et donc, pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas Instagram sur lequel je partage des trucs sympathiques. Et pendant les vacances, peut-être que j'utiliserai un peu moins Twitter et un peu plus Instagram. Donc, c'est NotePatrick. C'est toujours la même chose partout. C'est facile à trouver. Et bien sûr, Patreon, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous souhaitez faire en sorte que l'émission soit le meilleur qu'elle puisse être, c'est très simple. Vous pouvez la soutenir financièrement. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à vous tous également de bonnes vacances et je vous retrouve en vrai, moi-même en réel et pas du passé ou du futur, courant août, je reviendrai et je serai très heureux de vous retrouver. Ça va faire bizarre de ne pas faire d'émission pendant presque un mois. Ça va être assez étrange. Mais bon, j'espère que je survivrai et que je reviendrai plus fort que jamais. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Ciao, ciao.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.